Deutsche Welle, Allemagne, Europe.
Guten Tag, bonjour à tous. Le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Une journée établie pour rappeler une convention adoptée par les Nations Unies en novembre 1989 et dont le but est de reconnaître et de protéger les droits spécifiques des mineurs. Les articles 20 et 22 de cette convention concernent les enfants privés de leur environnement familial et les enfants réfugiés. Ces deux et de l'accueil qui leur est réservé en Allemagne, dont nous allons parler en première partie. Ensuite, direction la Roumanie pour un reportage au cœur d'un système éducatif qui tente de faire le grand écart entre archaïsme et modernité. C'est Constance Wenkotze au micro, Allemagne Europe sur les ondes, c'est parti. Stepped off a boat. Stepped off an aeroplane. Without a coat. Shouldn't be ashamed. La Bavière en a marre. La région la plus méridionale d'Allemagne, frontalière de la Suisse, de l'Autriche et de la République tchèque, demande que les réfugiés mineurs non accompagnés puissent être dispatchés dans l'ensemble du pays comme tous les autres réfugiés. Objectif, faire diminuer la pression sur les grandes villes proches des frontières. Des villes qui n'arrivent plus à encadrer correctement les enfants et ce, alors que le flux total de réfugiés augmente. Alors il n'y a pas que la Bavière qui souhaite une modification de la législation. Une ville comme Brême, dans le nord de l'Allemagne, soutient également l'initiative. Mais selon Thomas Berthold, ce n'est pas une solution. Il travaille pour une organisation fédérale qui s'occupe des réfugiés mineurs non accompagnés.
Le bien-être des enfants n'est pas au centre du débat. Voilà notre critique principale. Il existe une pression énorme pour qu'une nouvelle loi soit rapidement adoptée. De notre point de vue, cependant, il faudrait d'abord se demander comment cette idée de répartition peut aller de pair avec le bien-être de l'enfant. Ce n'est pas un sujet à traiter par-dessus la jambe.
Un réfugié mineur non accompagné, au fond, c'est quoi ? C'est un jeune de moins de 18 ans qui, le plus souvent, vient d'un État en guerre ou en proie à des violences. Ceux qui arrivent en Allemagne sont dans la majorité des cas originaires de Syrie, d'Afghanistan ou d'Érythrée. Leurs parents sont morts ou ils ont été séparés de leur famille pendant leur voyage. Autrement dit, ils sont déjà traumatisés en arrivant, par exemple à Munich, la capitale de la Bavière. Si la nouvelle loi était adoptée, les autorités pourraient accueillir un enfant le lundi pour lui dire le mardi qu'il faut qu'il reparte s'installer ailleurs dans le pays. Difficile dans ces conditions de trouver ses marques et d'établir une relation de confiance. Pourtant, la Bavière ne manque pas d'installations et de structures spécialisées dans l'accueil et le soutien psychologique des jeunes. À Munich, mais aussi à Nuremberg ou Augsbourg, le système a déjà fait ses preuves. Répartir les jeunes ailleurs dans le pays, c'est courir le risque qu'ils atterrissent dans des villes qui n'y sont absolument pas préparées. Or, s'occuper de mineurs déracinés, ça ne s'improvise pas. En Allemagne, les réfugiés mineurs bénéficient d'une protection particulière. Ils ont par exemple le droit de rester dans la ville où ils ont été enregistrés lors de leur arrivée, ce qui explique qu'ils soient pris en charge en particulier dans des villes proches des frontières. Les réfugiés majeurs, eux, peuvent être envoyés au bout de quelques jours ou de quelques semaines dans une autre localité, parfois à l'autre bout du pays. Cette procédure est critiquée depuis longtemps par de nombreuses organisations qui s'engagent pour les réfugiés car elles y voient un facteur de déstabilisation supplémentaire. Le fait est cependant que le nombre de réfugiés augmente en Allemagne de façon constante et ce depuis plusieurs mois. Maria Kurz-Adam dirige l'office en charge de la jeunesse de la ville de Munich.
Cette année, nous nous occupons déjà de 4 fois plus de réfugiés mineurs non accompagnés que l'an passé. C'est un record absolu. Notre plus gros problème actuellement, c'est celui du logement. En ce moment, on compte en moyenne entre 90 et 140 nouvelles arrivées par jour. Cela signifie en théorie qu'il faudrait ouvrir entre 6 et 7 centres d'accueil par semaine. C'est impossible.
Achia Grassel travaille elle aussi pour la municipalité. Elle s'occupe notamment de l'encadrement des jeunes réfugiés et elle admet que Munich atteint ses limites en termes d'accueil.
Les écoles et les foyers socio-éducatifs n'ont plus de place. Nous manquons de tuteurs. Certains jeunes sont ici depuis 2 mois et ne parlent pas un mot d'allemand parce que les cours d'allemand sont déjà tous complets.
Pour le moment, la loi sur les réfugiés mineurs est encore à l'état de proposition. Nombreux sont ceux qui souhaitent que la classe politique réfléchisse avant tout aux défis posés aux municipalités par l'augmentation du nombre de réfugiés. Le 11 décembre prochain, un grand sommet sur la question réunira la chancelière Angela Merkel et les ministres régionaux. D'ici là, la décision sera tombée. On s'envole pour la Roumanie à présent. La Roumanie qui vient d'élire un nouveau président en la personne de Klaus Iohannis, issu de la minorité allemande. Il a créé la surprise en battant dimanche dernier le favori de ce scrutin, le Premier ministre Victor Ponta. Il a axé notamment sa campagne sur la lutte contre la corruption et la consolidation de l'état de droit dans cet ancien pays communiste, le plus pauvre de l'Union européenne après la Bulgarie. À voir si le système éducatif roumain va profiter de ce changement. Un système étrange en effet où le manque de matériel didactique, les salaires dérisoires des enseignants et la corruption côtoient l'introduction de nouvelles technologies dans toutes les écoles du pays. Une initiative ambitieuse certes, mais qui n'a pas convaincu tous les professeurs. Le reportage de Mihaela Carbunaru.
Une vache qui broute paisiblement dans la cour de récréation. Rien d'inhabituel pour les enfants de Bodegne, un petit village montagnard situé à 2 heures de route de la capitale roumaine. Perché sur une colline, cette école accueille une centaine d'enfants, de la maternelle au collège. Dans chaque salle de classe, un poêle à bois. Tous les matins, 2 heures avant le début de l'école, c'est la femme de ménage qui s'occupe d'allumer le feu. Les toilettes, elles sont à l'extérieur, car il n'y a pas l'eau courante. Du coup, avoir une tablette électronique sur chaque banc et des manuels digitaux paraît quelque peu indécent.
Le toit d'une salle de classe s'est effondré il y a 15 ans et faute de financement, elle n'a toujours pas été rénovée. Pourtant, elle pourrait servir de laboratoire. Par contre, on a trouvé de l'argent pour acheter des tablettes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Juin dernier, le ministre de l'Éducation, Remus Plicopie, annonçait un projet phare pour relancer le système éducatif roumain. Renouvellement des programmes scolaires et introduction de manuels digitaux pour le primaire, avec en perspective l'achat de tablettes pour les élèves. Mais suite à des défauts de procédure, le projet a été bloqué. Résultat, les cours ont débuté en septembre dans la confusion la plus totale.
Habituellement, les enfants recevaient leur abécédaire le premier jour d'école. Mais cette année, j'ai vécu l'un des moments les plus pénibles de ma carrière. Nous n'avons reçu aucun manuel et je n'ai rien eu à donner à mes élèves. Finalement, les parents ont compris la situation. Ils ont dû acheter de leur poche des cahiers que l'on utilise encore 2 mois après la rentrée.
Le quotidien de cet enseignant ne semble pas appartenir au siècle de l'information et de la technologie. Il enseigne dans la même salle et en même temps à des élèves de CP, CE1 et CE2. Grâce à sa débrouillardise, il a réussi à connecter un ordinateur à Internet en faisant un trou dans le mur qui sépare la salle des professeurs de sa classe. Sinon, l'accès au web est rare dans les écoles de campagne, comme le confirme le directeur d'Ampaunescu.
Souvent en milieu rural, les enfants sont issus de familles pauvres ou déstructurées et ils ont du mal à lire et à écrire. À mon avis, une fois ce projet mis en place, le fossé se creusera encore plus. Ce n'est peut-être pas la priorité numéro 1, vu l'état actuel du système éducatif.
Le système scolaire roumain traverse une crise profonde depuis plusieurs années. Pas moins de 12 ministres se sont succédés au portefeuille de l'éducation depuis l'an 2000. Un jeu de chaises musicales qui a créé beaucoup d'instabilité. En plus, cette nouvelle démarche arrive dans un contexte de grande corruption. 9 anciens ministres de tous bords politiques sont accusés d'avoir reçu des pots de vin pour faciliter une série de contrats douteux avec le géant américain Microsoft dans le cadre d'un programme d'informatisation des écoles du pays. Pourtant, les autorités restent sûres de leur vision.
Je pense que l'enjeu est important et qu'il faut assumer un tel projet. Et puis, c'est seulement quand on met en œuvre un projet qu'on peut mieux voir comment et où rectifier le tir.
Plus de la moitié des enfants roumains vivent à la campagne et 41% d'entre eux ont moins de 10 livres à la maison selon les statistiques des ONG. Bon nombre de ces enfants abandonnent l'école faute de cahiers ou de chaussures tout simplement. L'écart avec la ville est par contre très important. Dans la capitale Bucarest, la compétition est féroce et les parents sont prêts à tout pour les études de leurs enfants. Dans ce collège de renommée, les murs du hall d'entrée sont tapissés de diplômes. Et la sonnerie n'a rien à voir avec la cloche de Bodin.
La noi in scuola cel puțin nu va fi un problemă.
Ce projet ne posera pas de problème dans notre école. Ici, les parents se donnent les moyens. Ils ont bien compris l'importance de l'éducation et aussi que la performance demande des efforts.
Très bien, ça ne se batte.
Ici, chaque classe est dotée d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur. À la maison, les élèves de primaire utilisent couramment Internet et ont des comptes sur des réseaux sociaux.
Ça serait super d'avoir des tablettes en classe. On pourra jouer dessus après avoir fini les devoirs. Peut-être qu'on va même écrire avec. On va s'en servir pour faire les devoirs, des calculs, chercher des livres.
Alors que le ministre de l'Éducation voit la Roumanie comme un laboratoire de l'enseignement de demain, Marian Stas, professeur diplômé de Harvard, milite depuis plusieurs années pour une refonte totale du système. Il y a même urgence, dit-il, car il s'agit d'une menace à la sécurité nationale.
Et oui, les diplômés stupides d'aujourd'hui peuvent devenir les dirigeants incapables de demain.
Une vision de la situation qui, à coup sûr, n'a pas été envisagée par les autorités. Mihaela Cărbunaru, à Bucarest, pour la Deutsche Welle.
Et nous arrivons déjà au terme de cette édition d'Allemagne Europe. Si vous voulez réagir au sujet traité, nous poser des questions ou nous suggérer des sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à français@dw.de. Le podcast, c'est pour bientôt, c'est promis. Rendez-vous sur le dw.de/français. À la semaine prochaine. Auf Wiedersehen.